Les tensions interconfessionnelles sont plus que jamais de retour dans le monde arabe. Elles n'ont sans doute jamais disparu, mais voilà qu'après les révoltes arabes, elles refont surface à nouveau. De l'Égypte à la Syrie jusqu'au Yémen, très peu de pays arabes sont épargnés. Même le Liban vit des moments difficiles, pourtant souvent montrés comme un modèle de coexistence interconfessionnelle. Pour pallier à ces tensions, des initiatives sont mises en place pour favoriser le dialogue dans le pays du Cèdre, comme l'Annonciation décrétée fête nationale tant pour les chrétiens que pour les musulmans. Aurélien Girard est membre de l'École française de Rome, spécialiste des chrétiens d'Orient. Il revient sur ce modèle libanais en perte de vitesse, un sujet signé Thomas Chabol.
C'est un modèle que je dirais sclérosé, qui montre combien le système politique est actuellement bloqué. Chaque fois qu'on doit refaire un gouvernement, ça prend très longtemps. Il n'y a plus de politique publique réellement à l'échelle de l'État. Et sa conséquence, en retour sur la société, c'est que chacun est bloqué dans sa confession, ignorant celle de l'autre, ayant peur de le rencontrer. Chacun est bloqué dans sa vallée. La géographie libanaise n'a jamais été aussi homogène d'un certain point de vue. Chaque vallée a sa confession. Il y a les maronites avec d'autres chrétiens, une vallée chiite, une montagne druze, etc. Et les gens ne se rencontrent plus, ne se connaissent plus, à l'exception de Beyrouth, la capitale, qui est une ville de rencontre, mais même il n'y a pas de lieu collectif, il n'y a pas de café, il n'y a pas de lieu où on discute réellement. Ce qu'on voit, c'est que ce dialogue qui prend une tonalité bien particulière au Liban, qu'on peut mettre sous le titre de dialogue, cette fête sur le 25 mars, fête de l'Annonciation, déclarée fête nationale islamo-chrétienne. Donc cette rencontre entre Libanais ne sort pas d'un cadre confessionnel très, très marqué. Chacun arrive avec sa confession dans une fête qui est une fête religieuse et qui est une fête autour de la Vierge, qui elle-même est une figure bien différente chez les chrétiens ou chez les musulmans, mais c'est vrai, une figure en partie commune, en partie en partage, en partie seulement. Et les musulmans, les Libanais, pardon, qui veulent se retrouver, qui ont un besoin très fort de se retrouver, de vivre ensemble, surtout une jeunesse, de dépasser ça, ont trouvé finalement une solution qui ne vaut que ce qu'elle vaut, autour du surnaturel, autour d'un chant. Il y a un grand chant de Tania Cassis qui mêle l'Ave Maria de Schubert avec la Shahada, donc mêlant les deux mélodies dans un chant arabe un peu moderne en quelque sorte, et qui a fait pleurer des foules entières de Libanaises. Mais on se rend compte, pas d'un point de vue rationnel, pas d'un point de vue politique au sens large, au sens citoyen, mais on se rend compte d'un point de vue émotionnel uniquement.
Finalement, à vous entendre, on a l'impression que le modèle libanais a montré toutes ses limites. Ça n'augure rien de bon pour les chrétiens qui vivent dans les pays concernés par les révolutions arabes.
La question est avant tout politique. La question n'est pas... La question, c'est est-ce qu'on a des états de droit ? La constitution égyptienne, jusque-là, reconnaissait la possibilité aux chrétiens d'être là et d'exercer toutes les professions. Le problème, c'est que la loi n'est pas appliquée, il y a des discriminations. La question est avant tout politique. Après, le dialogue, il est religieux, il peut s'établir dans certains cercles, dans certains endroits, à condition d'avoir la possibilité d'exprimer ce qu'on veut exprimer. Et si on ne le peut pas, il n'y a pas de dialogue possible. Voilà. Il faut bien voir aussi qu'il y a un fondamentalisme copte qui s'exprime pas tant en Égypte que dans les situations de diaspora. Voyez, le cas le plus célèbre est un cas américain, Father Boutros, père Pierre, qui est un copte, qui est intervenu sur des chaînes américaines à très grande audience, plutôt orientées à droite, pour tenir des discours extrêmement, extrêmement islamophobes, très anti-islam, que jamais il n'aurait tenu en Égypte, évidemment. Il faut bien dire aussi que ce père est marginalisé dans son église, il a été excommunié par son patriarche. Bon, il y a eu des fatwas prononcées contre lui. Mais donc, on a des fondamentalismes qui s'expriment dans des situations d'exil, parce qu'on... j'avais le fondamentalisme des réactions très vigoureuses anti-islam. On va donner à l'Occident une leçon sur ce qu'est l'islam, parce que nous, chrétiens d'Orient, on sait ce que c'est.
Est-ce que les chrétiens en Orient sont une espèce en voie de disparition? Quel est le constat aujourd'hui?
Si on se cantonne aux données démographiques, elles sont évidemment très inquiétantes. La Palestine, pour les territoires palestiniens, on est rendu à 1%. L'Irak, c'est une hémorragie. Il reste des pays très solides. Les Coptes en Égypte, quand même. Le Liban, la Syrie, etc. La Jordanie, une minorité silencieuse, mais qui s'en sort pas si mal. Alors, après, le discours qui ressort des médias, c'est bien sûr un discours souvent alarmant, parce qu'il y a tel attentat contre telle église, tel exode, etc. Ce qu'on a tendance à méconnaître, c'est l'extraordinaire renouveau culturelle et religion qu'ont connu ces églises depuis les années 50-60. En même temps, je vous ferai remarquer que le renouveau côté islamique, dans des sens différents. On n'a jamais eu autant de moines en Égypte, moines coptes, renouveau religieux. Pareil chez les Grecs orthodoxes en Syrie. Des jeunes se trouvent des vocations à la vie monastique. On multiplie les monastères. Pareil chez les maronites. Dans les années 50-60, 70 encore, se sont multipliées les universités en contexte confessionnel. On n'a jamais formé aussi bien le clergé. Apprentissage de l'anglais. Et grâce à Internet, meilleure circulation des connaissances. Qu'est-ce que ça provoque, cette ouverture, qu'on pourrait dire une ouverture à l'Occident ? Comme toujours, soit ça peut passer par un refus de sa propre identité, complètement une occidentalisation, soit une redécouverte de son identité. Alors, on va chercher à restaurer son patrimoine artistique. Au Liban, on va chercher à restaurer, ou en Syrie, à restaurer les lieux. On a parlé hier de Maaloula, petit village très connu à côté de Damas, parce que c'est le dernier village où on parlerait araméen au monde. Même le régime Baath, le régime de Damas, a dépensé des millions de dollars pour créer un centre d'études de l'araméen à Maaloula. Preuve que même un régime arabe, alaouite, voulait essayer de faire participer cette minorité à un élan culturel national, en quelque sorte. C'est un lieu de tourisme, hein, mais bon. Donc on a un renouveau culturel et religieux qu'il faudrait pas méconnaître. Après, il y a une véritable attente d'un point de vue politique. Quels régimes vont émerger de la situation présente ? Quelle place vont-ils faire aux chrétiens d'Orient ?
La question des conversions est également un point épineux dans le monde arabe.
Un des grands problèmes, c'est que l'islam n'accepte pas l'apostasie. Ça, c'est un fait. Mais le problème, c'est quand l'islam devient religion d'État. Qu'une religion n'accepte pas qu'on abandonne la religion, c'est pas un grand problème en soi. Mais le problème, c'est quand la charia... Il faudrait savoir exactement ce qu'on met sous ce titre, parce que c'est très faible, c'est très flou, en fond. Le problème, c'est permettons ou pas les conversions, les changements de religion, et même l'abandon de la religion. C'est un des problèmes vraiment centraux. L'un des problèmes vraiment centraux dans... Et je pense qu'on pourra juger en grande partie les régimes qui vont évoluer, s'installer, à l'aune de cette question de l'apostasie, des conversions.